Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Bienvenue sur Radio Présence à l'écoute de Métropolez-vous. Heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous dédié à l'actualité de la métropole toulousaine. Vous savez que nous avons l'habitude d'y aborder les grands projets de Toulouse Métropole, chose que nous ne pouvons pas faire en cette période dite de réserve électorale, à 2 mois des élections municipales. En revanche, il est possible de vous informer sur l'actualité des grands établissements situés sur le territoire métropolitain. Depuis quelques semaines, je vous ai proposé des émissions consacrées à l'agence de l'eau Adour-Garonne et à des équipements culturels tels que l'Opéra National du Capitole, l'Envol des Pionniers, le Muséum d'Histoire Naturelle ou le Quai des Savoirs. Cette série se prolonge aujourd'hui avec le Mine Grand Marché Toulouse-Occitanie, établissement qui s'est beaucoup développé et diversifié depuis quelques années. Il tient un rôle essentiel pour tout ce qui concerne les métiers de bouche, non seulement au sein de la métropole toulousaine, mais aussi dans notre région. Ce numéro est donc dédié au bilan 2025 et aux perspectives 2026 du Mine Grand Marché Toulouse-Occitanie. Pour faire ce bilan de l'année écoulée et nous projeter sur celle qui commence, j'ai le plaisir de recevoir Maglone Pontier, la directrice générale du Mine Grand Marché Toulouse-Occitanie depuis 2017. Bonjour madame, merci d'avoir accepté mon invitation et puisque c'est la période, permettez-moi de vous souhaiter une très bonne année à vous et à l'établissement que vous dirigez.
Bonjour, merci beaucoup et bonne année à vous également.
Pour commencer, quelques informations et rappels à destination de nos auditeurs. Quels sont le statut juridique et les partenaires du grand marché?
Alors, le marché d'intérêt national, c'est une société privée qui a une délégation de services publics, c'est-à-dire que la métropole me confie la gestion de ce marché jusqu'en 2039 et on va l'annoncer maintenant jusqu'en 2046 depuis cette semaine. Le marché d'intérêt national, c'est la centrale d'achat des commerces de proximité. Pendant que vous dormez, il y a des producteurs, des grossistes qui vont travailler la nuit pour approvisionner le lendemain matin tous vos commerces de proximité, les fleuristes, les charcutiers, les bouchers, les marchés forains, la restauration commerciale et la restauration collective. 3,7 millions de personnes quotidiennement mangent grâce au marché d'intérêt national.
Et ça, c'est sur l'ensemble de la région, bien sûr. C'est ce qu'on appelle un marché de gros. Comment vous vous positionnez parmi les autres marchés de gros en France? Alors, le plus connu, c'est Rungis, bien sûr, mais je crois savoir que le Mine Grand Marché Toulouse-Occitanie vient tout juste derrière.
Exactement, le marché de Toulouse est le deuxième après Rungis, et Rungis est notre actionnaire majoritaire. Donc nous sommes le même groupe, ça tombe très bien. Les marchés de gros, ils sont assez complémentaires entre eux, vu que nous, on va vraiment approvisionner les commerces de proximité. Et ensuite, il y a la grande distribution qui va, elle, via ses centrales, approvisionner ses magasins que vous connaissez, les grandes enseignes.
Alors ça, ce sont les principaux clients, les principaux fournisseurs.
Alors nos fournisseurs sont les producteurs, les coopératives agricoles, les grossistes vont aller chercher les meilleurs produits, ce qui fait qu'on a une grande diversité de produits. Parce qu'on n'a pas un seul fournisseur, on a une multiplicité de fournisseurs. Donc une gamme est beaucoup plus large qu'en grande distribution.
Le nombre de personnes que vous employez, parce que c'est une véritable fourmilière, le Mine Grand Marché Toulouse-Occitanie.
Tout à fait, il y a beaucoup de monde sur un marché d'intérêt national au grand marché. Il y a chez nous 263 producteurs qui vont travailler, 233 entreprises, 1500 personnes à peu près qui travaillent et 4400 acheteurs, les commerçants dont on parlait tout à l'heure.
Est-ce qu'on peut dire aussi que c'est un outil d'aménagement et un acteur logistique qui est vraiment au cœur des filières alimentaires? Pour résumer un peu le rôle du Mine Grand Marché.
Tout à fait. Le Grand Marché, il va accueillir évidemment des grossistes, des producteurs, j'en parlais. Il va aussi transformer énormément de produits. On a 8000 m² de transformation. On a de la sommellerie en thé, de la torréfaction de café, des labos de pâtes fraîches, de pâtisserie, beaucoup de labos de traiteurs qui sont chez nous. On va aussi former. 1500 élèves peuvent être formés dans nos murs ou hors les murs en logistique, en commerce, en pâtisserie, boulangerie, fromagerie, caviste, etc., commis de cuisine. On va aussi accueillir toutes les transitions alimentaires, toutes les startups, les jeunes pousses, etc., qui vont faire l'alimentation de demain.
Et également, vous êtes un acteur du développement durable, notamment parce que vous promouvez les transports doux.
Tout à fait, beaucoup de transports doux sur le marché, c'est un vrai défi. Évidemment, sur un marché, vous avez beaucoup de camions. C'est normal. Donc, on va avoir des camions électriques, on va essayer de tester des solutions d'hydrogène. On a aussi des opérateurs comme Martin Brewer, qui sont les fournisseurs de l'enseigne McDonald's, qui sont plus connus que Martin Brewer, qui vont rouler à l'huile de friture. Ça existe et ça fonctionne. Et on a effectivement aussi beaucoup de mobilité douce pour nos salariés. Par exemple, aux mines, on a des vélos de fonction, ce qui fonctionne très bien pour aller travailler et se déplacer dans le mine.
Et puis, vous agissez aussi pour tout ce qui est collecte, traitement et revalorisation des déchets.
Effectivement, c'est une part très importante. On va essayer d'abord, évidemment, de ne pas gaspiller. Et pour ça, les grossistes sont très bons parce que comme ils ont une multiplicité de commerces, c'est assez facile d'aller commercialiser jusqu'au bout de la date de consommation du produit. Ensuite, on travaille avec des associations d'aide alimentaire. C'est hyper important. Vous savez que l'aide alimentaire et ses besoins augmentent en France, malheureusement. Et aux mines, c'est plus de l'équivalent de 5 millions de repas qui sont donnés chaque année. C'est assez important, surtout que les plus démunis manquent souvent de produits frais. Ils ont beaucoup plus accès à des produits transformés. Donc nous, on a vraiment un rôle à jouer dans les dons de fruits et légumes, notamment les étudiants, les personnes les plus démunies, les associations d'aide alimentaire, les femmes un peu fragiles qui ont énormément de difficultés d'accès également. Et après, on va effectivement traiter, une fois que toutes ces solutions ont été éprouvées, traiter les déchets.
Après cette présentation générale dont je vous remercie, on en arrive au sujet de cette émission, le bilan, dans un premier temps, de l'activité 2025 du Mines Grand Marché. Alors qu'est-ce qu'on peut noter et quelles sont les évolutions peut-être aussi par rapport aux années précédentes ?
Alors, on peut noter que les entreprises résistent dans un contexte qui n'est pas facile. On a beaucoup de procédures collectives quand même, donc certaines entreprises souffrent de procédures collectives. Ce sont des redressements, des liquidations, etc. Mais une belle résistance, une belle résilience. On a 566 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc on continue notre progression. C'est
donc
très
vous êtes toujours
bien.
En développement.
On est toujours en développement, en léger développement. Comme on entre aussi toujours de nouvelles entreprises, forcément le chiffre d'affaires grossit et on a des entreprises qui font face à de nombreux défis. L'augmentation des charges, on l'a vu avec l'énergie, l'électricité, etc. Et des consommateurs qui sont frileux et qui vont faire parfois des arbitrages de consommation à la défaveur de la proximité, malheureusement.
Quels ont été les principaux projets que vous avez développés au Mines Grand Marché ces dernières années ? Alors en particulier en 2025, mais on peut se permettre peut-être de parler aussi des années précédentes.
On a eu beaucoup de projets et d'ambitions pour ce marché. Je l'ai un peu dit tout à l'heure, on a développé énormément de formations, de labos de transformation. C'était important pour que sur un même site, tout se fasse, pas uniquement des produits bruts, mais aussi des produits transformés. Ça aide notamment les producteurs à trouver de nouveaux débouchés. On forme chez nous pour former tous les professionnels de demain à bien acheter, à bien travailler, etc. On est allé aussi diversifier les secteurs. C'était très fruits, légumes et fleurs sur ce marché. On est allé mettre des produits laitiers, des produits transformés, des produits de ce qu'on appelle de la gastronomie, de la viande, de la marée, etc. C'est chose faite. Ensuite, on a travaillé des projets plus ambitieux, plus innovants, comme le Food Lab, qui existe depuis un peu plus d'un an maintenant, qui est un tiers-lieu dédié à l'alimentaire. Vous allez pouvoir y faire du team building, des ateliers culinaires, des réunions, du séminaire et du labo. Vous pouvez louer des cuisines à la demi-journée. Et ce qu'on a fait aussi, qui est très très important, c'est qu'on s'est ouvert au grand public. Le marché d'intérêt national, c'est un site assez fermé.
C'est interdit. Oui, c'est vrai, quand on passe à côté, comme ça, on n'a pas forcément envie de rentrer.
Exactement, on ne le connaît pas. Il y a un péage, on se dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que cet endroit ? En fait, si vous pouvez y rentrer, vous pouvez y rentrer le matin, le midi, le soir pour y manger. On a 4 restaurants.
Oui, il y a 4 restaurants.
Qui sont très bons, qui font énormément de couverts. Donc, à 4 heures du matin, si vous avez faim, vous pouvez venir manger chez nous sans souci. L'été, à partir du mois d'avril-mai, il y a une guinguette qui fait jusqu'à 500 couverts. Elle est très jolie dans un parc classé. On a aussi organisé des visites. Il faut savoir qu'entre nos visites, nos ateliers, ces personnes qui viennent manger, cette année, on a accueilli 140 000 visiteurs. On est le premier site, finalement, industriel visité d'Occitanie. Ce n'est pas rien avant Airbus, etc., même si on n'y pense pas. Donc, il faut se renseigner pour ces visites. Sur nos réseaux sociaux, on est joignable. C'est la plupart du temps, le mercredi et les vendredis, à 6h30. Vous finissez par un petit déjeuner. C'est super de voir l'envers du décor. Vous allez voir les coulisses, vraiment, de votre alimentation. Et on fait aussi beaucoup d'ateliers culinaires, de cours de cuisine pour les particuliers et depuis très peu pour les enfants. On travaille avec les centres de loisirs, avec la métropole, pour pouvoir permettre aux enfants de la métropole toulousaine d'aller voir comment se fabriquent, encore une fois, les coulisses de leur assiette et pouvoir faire des ateliers culinaires avec nous.
Alors, en termes d'accès, peut-être que les gens ne se rendent pas compte, mais en fait, il y a une station de métro qui n'est pas si loin. C'est la station Lavache, hein, de la ligne B. Et on peut aller visiter le mine Grand Marché à pied, si je puis dire, sans utiliser forcément sa voiture.
Ah, tout à fait, pas la peine du tout. Si vous avez une voiture que vous voulez venir, il n'y a pas de problème parce que vous pouvez vous garer, etc. C'est très simple, mais vous pouvez venir effectivement avec le métro Lavache. Tous les bus, c'est vraiment à 50 mètres et pour le métro, ça doit être à 600 mètres.
Vous parliez de projets qui ont été développés ces dernières années. Il y en a un sur lequel je voulais un petit peu insister, c'est que vous avez créé la première ferme urbaine en aéroponie en Occitanie et elle est implantée sur les toits du mine. Ce sont les fermes Yonaka. Expliquez-nous ce que sont les fermes Yonaka.
Alors les fermes Yonaka, c'est d'abord à la tête de cette entreprise qui est venue s'installer chez nous, Magali Rosso, une dirigeante brillante vraiment, qui a voulu accompagner des solutions pour produire en milieu urbain, sur des surfaces inutilisées, des toitures, des espaces tout petits confinés, typiques des centres-villes. Donc ce sont des grandes colonnes, pour aller voir sur Internet, où vous allez produire sans eau quasiment. On réduit 90% d'utilisation classique de l'eau par rapport à des circuits normaux. On a une croissance qui est trois fois plus rapide qu'en pleine terre. Et on produit à peu près 40 kilos par semaine. Ce sont des jeunes pousses, des herbes aromatiques, des fraises, des salades, des tomates. Ils fonctionnent énormément dans des hôtels, dans des cours de restaurants. Ils travaillent aussi beaucoup avec des hôpitaux et des cliniques qui ont installé ces
colonnes. Parce que ça a essaimé, en fait.
Exactement, hein, ça a essaimé. Ça fonctionne très bien. Maintenant, ils sont en Nouvelle-Aquitaine, au Pays Basque.
Pilote, si on
tout
peut
à
dire,
fait.
À Toulouse, en tout cas.
Et la ferme pilote reste chez nous.
En fait, le gain le plus intéressant, c'est vraiment sur le plan environnemental. C'est très peu d'utilisation d'eau.
Exactement. Pas de terre, peu d'intrants.
Peu d'engrais, donc.
Et pas, exactement, peu d'engrais et très, très, très peu d'eau. C'est en circuit complètement fermé, donc assez écologique, même si parfois on a l'impression que ces nouvelles solutions, ces solutions innovantes, ne sont pas écologiques, mais elles le sont profondément.
Si j'ai bien compris, il y a quand même des rendements intéressants.
Oui, 40 kg semaine, ce n'est pas négligeable. Si vous avez, par exemple, l'équivalent d'un potager, vous pouvez comparer que sur un mètre cube, vous ne ferez pas 40 kg par semaine.
Je crois que ça se fait maintenant aussi sur des toits de cliniques, puis c'est la clinique Pasteur.
Exactement.
Y en a qui fait ça.
Et c'est les fermes Yonaka.
C'est
la même ferme. Partout où vous le voyez, c'est la même ferme.
Et donc, ça continue de se développer, c'est-à-dire qu'il y a d'autres établissements qui s'approprient le procédé.
Ils sont au Pays Basque aujourd'hui, il y a une grosse croissance et ça peut intéresser les gens, les particuliers. Quand vous faites la visite du marché, vous allez visiter cette ferme.
Effectivement, visuellement, c'est assez impressionnant. Alors, on en arrive aux perspectives et au projet 2026 du Grand Marché. Quels sont vos investissements? Est-ce qu'il y a des nouvelles filières, des nouvelles activités, peut-être de nouvelles formations? Je sais que ça, c'est un de vos chevaux de bataille, la formation. Expliquez-nous un peu tout ça.
Alors, la grande nouveauté, les grands projets pour 2026, c'est d'abord la prolongation de notre contrat de délégation de service public.
C'est la base.
C'est la base. On avait 22 ans, donc jusqu'en 2039, et on va pousser jusqu'en 2046, qui est assez rare, assez historique, parce qu'on avait une telle demande d'implantation sur le marché, avec une croissance démographique qui est énorme, hein, la
oui.
première en France, donc il faut faire manger les gens. Donc, on va avoir 7 ans de plus, qui est pour nous un énorme chantier. Et surtout, on a récupéré du foncier nouveau que nous a acheté la métropole et qui vont intégrer le périmètre du mine. On augmente de 16% notre foncier. On récupère un énorme bâtiment qui est au bout du marché après la guinguette et deux maisons individuelles. Donc, on récupère l'équivalent de 12 000-14 000 m² bâtis, beaucoup plus en non bâti. Donc, on va construire de nouveaux bâtiments. On va réhabiliter ces maisons avec des projet notamment de Terra Lab, qui est comme le Full Lab des tiers-lieux, mais plutôt dédié au végétal, donc pour faire des cours, pour apprendre, que ce soit à faire des bouquets, à faire justement sa ferme verticale ou sa ferme en aéroponie chez soi, mais aussi pour toutes les start-up autour du végétal. Vous voyez notamment les start-up qui font des canopées végétales, vous voyez, dans l'espace public, autour, par exemple, pour le Panalomé, s'installent chez nous, etc.
Je réagis à ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'un particulier peut venir se former chez vous, vous proposer des formations qui ne sont pas forcément destinées à des professionnels.
Tout à fait. On propose des formations pour le grand public. Par exemple, l'Atelier des Chefs, qui est une enseigne connue, hein, qui a aussi dans le centre-ville de Toulouse, forme avec des ateliers culinaires, des ateliers anti-gaspi, etc. Et on fera pareil pour le végétal.
Vous parliez d'un nouveau projet. Alors, il y a un projet à l'horizon 2028, construction d'un nouveau bâtiment. Il s'agit de quoi?
De ce même projet, évidemment. Là, on est en phase de trouver l'équipe qui va construire ce bâtiment, je passe, nous sommes soumis au code des marchés publics, mais c'est pas vraiment intéressant. Donc on va réceptionner plutôt en 2029 un nouveau bâtiment qui va accueillir des activités, surtout pour ce qu'on appelle les GASC, les grossistes à service complet. Vous connaissez peut-être des noms comme Transgourmet, comme Pomona,
oui,
etc.,
oui, oui,
qui
oui.
vont servir à la restauration collective et commerciale. Et ça, ils ont besoin d'entrepôts logistiques importants pour recevoir la marchandise, ce qu'on appelle la délotir, etc., la faire repartir dans vos restaurants et dans les cantines, les EHPAD, les prisons, les crèches, etc. On approvisionne tout ça et on fait aussi un nouveau bâtiment justement pour une cuisine centrale bio en crèche. Donc on est ravis parce qu'on est le premier mine à accueillir ce type d'investissement. Et donc pour que voilà, tous les enfants mangent correctement, ça sera désormais aux mines.
Nouveau bâtiment, toute dernière génération, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il est construit selon certaines normes, sans doute environnementales, j'imagine, d'économie d'énergie peut-être aussi.
Exactement. L'idée, c'est que ces bâtiments soient autonomes ou quasiment autonomes énergétiquement, donc avec du photovoltaïque en toiture, par exemple, parce qu'on peut plus se permettre d'avoir une empreinte énergétique. On est soumis à ce qu'on appelle le décret tertiaire, donc on a baissé notre consommation d'énergie de 40% dans ces prochaines années. Donc on doit absolument réduire notre facture énergétique et c'est très bien.
Il y a un autre événement alors, qui existe depuis quelques années, je crois que ça va être la quatrième édition en 2026, c'est l'événement top départ du concours de pépites de la food. Qu'est-ce que c'est ça?
Alors, je le disais un peu tout à l'heure, c'est très important qu'un marché d'intérêt national soit un acteur des changements et des transitions alimentaires pour savoir ce que vous allez manger demain, comment vous allez manger demain, les nouveaux produits, ce qu'on appelle les super aliments, la spiruline, etc. Il faut accompagner ces entreprises à naître, à grandir. Ça coûte cher de créer une entreprise, ça coûte de l'énergie, il faut être accompagné. Donc depuis 4 ans, on a décidé de mettre énormément de choses en place pour les accompagner. On a mis en place des tarifs spécifiques les 3 premières années, ils ne payent que 50%. Etc. On a mis en place des baux précaires. C'est-à-dire qu'au lieu de signer pour nous, comme avec nous, comme d'habitude, pour un 3, 6, 9, donc au moins 3 ans, vous pouvez partir tous les mois quand ça ne va pas, etc. Vous pouvez partir avec plus de souplesse. Et on a fait ce concours avec l'association Les Pépites, qui est l'association qui fédère aux mines et dans toute la métropole, toutes les entreprises alimentaires qui le souhaitent, avec la BNP, avec la région, avec Adoc, avec Invest in Toulouse et la métropole. On a beaucoup d'acteurs autour de ce concours. On va permettre à des entreprises déjà créées dans le milieu de l'alimentaire d'être hébergées gratuitement chez nous, d'avoir de l'accompagnement programmatique, de mise en relation. C'est important avec nos avocats, l'accompagnement de la région, de la métropole.
Aussi, ouais.
C'est très, 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 très important de ne pas démarrer tout seul, d'être accompagné. Chez nous, on a les plus gros acteurs en restauration collective, en traiteurs, etc. Ils vont apprendre à ces jeunes pousses à se créer. Ça fonctionne très bien. Maintenant, quasiment 30% de mes entreprises sur le mine ont moins de 5 ans. Ça, c'est pareil, c'est assez atypique à Toulouse.
Oui, alors c'est l'association Les Pépites, en fait, qui est derrière cet événement concours de pépites de la food 2026.
Exactement, parce que nos pépites se sont créées il y a 4-5 ans en association. Elles sont maintenant une quarantaine d'entreprises et c'est beaucoup de jeunes entreprises et c'est super. Elles vont avoir des workshops, elles vont avoir des événements ensemble, elles vont pouvoir s'accompagner. C'est très bien quand vous créez quelque chose de ne pas être tout seul pour ne pas faire les mêmes erreurs, pour pouvoir parler, pour pouvoir s'épancher. Et ils sont ensemble sur un grand plateau de bureau. On a 76 places, hein, donc il est quasiment plein, mais on fait toujours un peu, on pousse les murs. Et c'est plein d'entreprises qui sont vraiment dans des secteurs dédiés sur les produits, mais aussi par exemple sur la communication. On a des agences de presse, de com, de marketing, de packaging. On a des entreprises de santé, on a des entreprises de services. Toutes les entreprises que vous pouvez imaginer en produits ou en services autour de l'alimentaire. Le service, c'était aussi vraiment un cheval de bataille très important du marché, de pouvoir apporter en termes de mutuelles, d'assurance, de conseils, tous les services supports aux entreprises alimentaires.
Qui dit concours dit jury, et dit aussi un prix, je suppose. Alors, qui sont les membres du jury? Selon quels critères on juge les candidats? Et puis, qu'est-ce qui a gagné?
Alors, ils ont déjà jusqu'au 3 février pour répondre. Hein. Le concours est accessible sur notre site internet, sur tous
pour
les réseaux sociaux.
Donc, hein.
Pour s'inscrire, c'est important, parce qu'après, ça sera trop tard. Le jury, il est assez classique. Il est composé de nos partenaires, donc pour ce concours de la région, de la métropole avec Invest in Toulouse, Adoc pour la région, du Mine, évidemment, avec notre DAF, hein, notre directeur administratif et financier, et les Pépites, évidemment, qui sont du coup des entreprises pères de ces entreprises-là, à gagner il y a un an d'incubation au grand marché avec vos bureaux, etc. Vous ne payez que les charges, un programme d'accompagnement de la région et un programme très important de mise en relation professionnelle de la part de Toulouse Métropole qui est très utile. Le premier prix, pour faire une idée, c'est l'équivalent de 10 000 euros d'accompagnement.
Oui, donc c'est quand même extrêmement intéressant, effectivement. On a parlé des partenaires du mini grand marché, mais vous-même, vous êtes partenaire d'autres structures. Alors, qui soutenez-vous, par exemple ?
Nous, c'est la politique RSE, responsabilité sociétale des entreprises du grand marché, elle est très forte. On a voulu montrer vraiment qu'on pouvait être un business d'intérêt général. On peut être un outil de politique publique, alimentaire en l'occurrence, en étant rentable et en aidant au maximum ces parties prenantes. Je suis persuadée que c'est possible. 10% de nos locataires sont des associations. Je pourrais en citer plein. Cuisine Mode d'Emploi, qui est l'école de la deuxième chance du chef Thierry Marx. Solal, qui est une association d'aide alimentaire. Linky, une autre association d'aide alimentaire pour les étudiants. On a les Cravates Solidaires, qui est l'association qui accompagne le dernier mètre avant votre recrutement. Donc, vous pouvez avoir chez nous des vestiaires avec toutes les habits pour vous sentir bien. Vous répétez, par exemple...
Votre entretien avant d'aller à un entretien.
C'est super. On a énormément. On a Ukraine Libre depuis le début du conflit. On a énormément d'associations. On a d'associations comme la NRH, qui est l'Association nationale de l'insertion et de la réinsertion des personnes en situation de handicap, qui fait notre conciergerie. On a le PLI. Beaucoup de structures d'insertion, de réinsertion, c'est important pour nous. On fait énormément d'aide alimentaire. Je le dis, jusqu'à 5 millions de repas. Je pense que c'est important d'aider au maximum dès qu'on le peut. Je pense que c'est vecteur d'humanité, c'est notre ADN. Je pense que donner, c'est vraiment aussi important que recevoir. Sans naïveté, vraiment, on peut être rentable et aider. Par exemple, en ce moment, enfin depuis 2-3 ans maintenant, on loge des personnes sur le site, des personnes en parcours de migration ou en situation de difficulté, peu importe son origine. On travaille avec l'association Les Bureaux du Cœur. Ça, c'est tous les chefs d'entreprise qui m'écoutent. Cette association, elle est géniale. Elle vous permet, elle gère l'assurance, elle gère l'accompagnement. Vous avez juste à dire, voilà, ben moi, j'ai un bureau avec des vestiaires pas loin, des douches pas loin. Je peux accueillir quelqu'un pendant 6 mois. Je pense vraiment que c'est important. Nos salariés aussi ont des heures de mécénat. Ils peuvent aller, pendant leurs heures de travail, nous accompagner des associations. Et je pense vraiment que ça fonctionne. Moi, j'ai beaucoup proposé ça à mes salariés. Maintenant, cette chose m'a complètement dépassée. Ils vont me proposer des nouvelles initiatives, des nouvelles associations à aider. Et je pense que c'est essentiel, surtout dans un moment de la vie politique française, de la vie économique, où on a tendance à se polariser, on a tendance à se méfier, etc. Je crois au contraire qu'en tendant la main, on se rend compte que personne n'est si différent et que finalement, en s'aidant un tout petit peu, on peut faire beaucoup de choses, on peut accomplir plus de choses que ce qu'on croit.
Vous en parlez, je voulais y venir pour conclure cet entretien. Bon, le secteur agricole français, comme chacun sait, est toujours en crise, il est soumis à de fortes inquiétudes. Il y a la probable signature de l'accord commercial entre l'Union européenne et le Mercosur qui renchérit un peu les tensions déjà existantes et notamment pour les producteurs de viande bovine. Quelles ont été les conséquences jusqu'alors de cette situation pour le mini grand marché et quel rôle vous pouvez jouer pour soutenir les producteurs et notamment ceux que je viens d'évoquer, ceux de la filière bovine?
Alors, tout d'abord, le MIN est extrêmement solidaire du mouvement des producteurs et des agriculteurs. On est dans une situation où les producteurs français sont soumis à énormément de charges et font face à une concurrence extrêmement déloyale. Des produits arrivent sur le marché français qui subissent pas du tout les mêmes règles, pas du tout les mêmes obligations. Donc forcément, les produits sont moins chers. Donc les consommateurs les achètent. Et du coup, ils se protègent pas pareil. Alors que les producteurs français, eux, ont pas le droit de produire dans les mêmes conditions. Des concurrences déloyales également dans les niveaux de rémunération. Par exemple, rien qu'en Espagne, on peut être à 2-3 fois plus cher en termes de coût du travail. Donc c'est très compliqué pour le monde agricole de faire face. Donc on pense à eux très fort, on a beaucoup de producteurs sur le marché, on est extrêmement solidaires. Ensuite, nous, on n'a pas été vraiment gênés, on a plus été gênés par l'épisode climatique, notamment du grand froid avec beaucoup de gel sur des produits comme la salade, etc., où il y a eu énormément de problèmes pour s'approvisionner. Après, on a eu des aléas effectivement d'approvisionnement parce qu'il y a eu des blocages, etc., mais c'était assez léger. Et comme j'expliquais tout à l'heure, on a tellement de sources, nous, d'approvisionnement, qu'on n'a jamais trop de contraintes de ce type-là. Ensuite, le marché est très utile aux producteurs pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que quand vous êtes producteur et vous venez travailler et vendre vos produits sur le marché, vous avez accès à nos 5 000 clients. Donc forcément, quand vous êtes dans votre ferme, vous avez un peu moins de clients qui passent. Nous, vous en avez beaucoup plus. Ensuite, et c'est hyper important, vous avez un rapport de force plus favorable. Quand vous avez un primeur ou un restaurateur qui vient vous acheter des produits, vous êtes un producteur, il est primeur, vous avez le même rapport de force, le même chiffre d'affaires, le même équilibre économique, alors que les producteurs qui doivent faire face aux quatre maintenant centrales d'achat de grande distribution, vous doutez bien que le producteur, il n'a pas son mot à dire. Il va vendre au prix qu'on lui dit. Si après, il doit faire des ristournes après coup, etc., il doit le faire. Là, il y a un rapport de force beaucoup plus sain et donc des prix de produits plus intéressants pour les producteurs. Et ensuite, nous, on travaille la proximité, on y tient. Donc, on est beaucoup plus hermétique et imperméable aux aléas du marché, etc. Les prix sont beaucoup moins volatiles dans un commerce de proximité, avec un énorme défi pour les gens qui est de continuer à acheter de la proximité, qui est continuer à acheter de saison. Les consommateurs ont l'impression que leur pouvoir d'achat alimentaire baisse, mais ce n'est pas vrai. C'est l'arbitrage qu'on en fait. En fait, dans les années 60, par exemple, 45-50% de votre budget était dédié à l'alimentaire. Aujourd'hui, c'était encore 20% à quelques années. L'année dernière, c'était 16. Cette année, c'est 15. Les gens arbitrent autrement, je le comprends. Ils veulent partir en vacances, ils veulent consommer ailleurs. Donc, ils ont l'impression que ça baisse. Mais le niveau des produits alimentaires n'augmente pas tant que ça. Si vous continuez à acheter dès saison les produits les plus bruts possibles, les produits transformés, évidemment, coûtent plus cher. Donc, on prend le temps de faire ses courses, on peut accéder à des produits de qualité et de proximité. Et il faut faire cet effort. Si vous voulez, par exemple, dans les années 80, il fallait 4 heures de SMIC pour acheter son kilo de pain. Maintenant, il ne faut plus que 2 heures. Donc vraiment, c'est plutôt l'inverse.
Oui. Et ça renvoie aussi les consommateurs que nous sommes tous à leur responsabilité face à la situation. Nous pouvons tous, par notre acte de consommation, aider les producteurs français, notamment les producteurs de viande bovine, qui font souvent de l'excellent travail. Et bien, il est temps de conclure cette émission. Merci beaucoup d'en avoir été l'invité, Maglone Pontier. Nous suivons bien sûr de près les projets que vous avez présentés au cours de ce numéro et les évolutions à venir de l'établissement que vous dirigez. Pour ceux de nos auditeurs qui voudront en savoir plus sur les activités et services du Mine Grand Marché, je les invite à consulter le site www.lgm-mine-toulouse.com. Ce numéro de Métropolez-vous était animé par Éric Dupri, à la technique Enzo Basile. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Je vous souhaite à tous un très bon week-end.
Métropole et vous.
Métropole et vous.
Métropole et vous, une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.